Radio Caravane.
Radio Caravane. De l'ombre des coulisses
à la lumière de la piste.
Radio Caravane.
Bonjour à tous, vous écoutez Radio Caravane. Aujourd'hui, nous recevons Céline Berneron et Édouard Gautron de la compagnie 220 vols, programmée dans la 7e édition de l'événement Créatrice à la Grainerie. Bonjour Céline.
Bonjour.
Bonjour Édouard.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bien, très bien.
Ça va.
Un peu fatigué toutes ces,
ouais,
ces semaines de résidence et de création.
On est dans le tunnel, ouais.
Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours, de votre compagnie, des membres qui la composent, de son histoire ?
Sacrée histoire, parce que ça a commencé en 2006, 2007, je ne sais plus exactement, avec Christophe Bouffartigue, qui était guitariste et qui s'appelle Monsieur le Directeur aussi, qui fait de la musique à Toulouse et ailleurs. Et on a monté cette compagnie. Après, on s'est divisé. On a fait 3 spectacles. Western Spaghetti, Larsen et Q, comme queer, sur lequel ça a explosé, en fait, le duo. Et ça, c'était en 2015 où ça s'est arrêté, il y a 10 ans. Et après ça, et ben moi, j'ai continué sur ce qui avait été écrit. Et j'ai commencé à travailler sur la pole dance. Ça m'intéressait, ce truc-là. D'abord, j'ai monté un petit numéro où j'ai joué au lido, après avec un batteur. Et après, le batteur, il m'a dit j'arrête. Et là, j'ai appelé Édouard, qui est un ami d'enfance, musicien. Là, on a commencé des résidences. Et on a travaillé... on a sorti la première de ça, c'était en 2018, au Grand Rond, et ici. Les avant-premières ici et les premières au Grand Rond. Suite à cela, je suis tombée enceinte à ce moment-là, au moment où je joue au Grand Rond. Et ce qui n'était pas prévu, et Cybèle est née, voilà. Et après, il y a eu la Covid, et après, j'ai fait autre chose avec un autre partenaire, avec Nico, avec qui j'avais travaillé sur Larsen, avec le cirque portatif. Et j'ai mis un peu de côté Princesse. Et là, le cirque portatif vient de se terminer, et donc, prévoyant cela, j'ai trouvé aussi... on avait travaillé avec Fred Blin sur le cirque portatif, ça s'appelle La Mêlée. Il a vu Princesse Aurillac il y a 2 ans, et il m'a dit, je vais t'aider pour donner des directions plus claires. Donc on a fait appel à des structures, à la DRAC, pour avoir un peu de sous, pour faire une recréation. Et c'est vraiment une recréation, du coup.
On va y venir justement sur ce sujet.
Et on joue donc. Cette recréation, c'est des repremières, du coup, le vendredi et samedi prochain.
Vous proposez donc le spectacle Princesse Bernard pour l'événement Créatrice. C'est un spectacle, comme tu le disais, recréé.
Oui.
Pourquoi ça ? Comment décide-t-on de recréer un spectacle qui a déjà eu une vie antérieure ?
Ça vient de moi, de ne pas vouloir lâcher ça, de par l'histoire que ça a eu, en fait. On est en duo, mais c'est plutôt un solo accompagné. Donc les solos, c'est un peu particulier, parce qu'on on se met en scène beaucoup soi, même si c'est universel, ce qui me touche. Et après, moi, je suis assez jusqu'au boutiste, de toute façon, ce qu'ils voyaient dans mes autres créations. Donc ça vient de ça, je pense aussi, de ce trait de caractère-là, donc d'aller au bout. Parce que quand on l'a joué, j'ai eu un enfant, qu'après il y a eu la Covid, voilà. Après j'ai fait un autre projet qui était assez prenant, qui ne me laissait pas la place de continuer ça, j'ai eu envie de le reprendre, enfin d'aller au bout. C'est vraiment ça. Et là, je suis plutôt contente d'avoir fait ça, même si on n'a pas encore joué. La direction qu'on y redonne, et même le temps qui est passé, ça mûrit, un truc qui est plutôt pas mal pour un solo. Même s'il y a un truc au fond de moi où je me dis, oh là là, les gens, ils vont se dire, c'est les gens qui. Et même moi, je me dis, ah, ça fait réchauffer. Mais vraiment, personnellement, c'est vraiment fort de faire ça. Pour moi, c'est vraiment important, pour nous, d'ailleurs, d'aller au bout et de... Comme il y a eu l'opportunité, un peu, Serge qui a dit OK, la DRAC qui a dit OK, le Grand Rond qui a dit OK. C'est un cheminement.
Pour Édouard, donc toi, tu es musicien à la base.
Oui.
Comment est-ce que tu te retrouves de musicien accompagnant sur un spectacle de cirque ?
Oh, c'est un petit peu le même métier, hein. Musicien, c'est une grande casquette pour beaucoup de choses. On peut être musicien solo, on peut être musicien dans un orchestre, on peut être musicien dans tout un tas de structures. Et la plupart du temps, ça consiste justement à accompagner. Moi, je pratique des instruments basses. Donc, notre rôle, déjà, à la base, c'est de faire briller les gens qui jouent les solos, toutes ces choses-là. On est là, déjà, dans un rôle d'accompagnement. Donc finalement, de partir sur un spectacle de cirque, la transition se fait assez naturellement, parce qu'on est à l'écoute, parce qu'on est au service, mm-hmm. voilà, de quelque chose de plus grand. Et, si.
L'écriture se fait de la même façon? Il y a une façon d'imaginer la chose différente
Que dans le métier de musicien?
Ouais.
Ben, le métier de musicien, c'est encore autre chose. Enfin, tout dépend de si on est force créatrice ou si on interprète le texte de quelqu'un d'autre. C'est toujours deux choses assez différentes, mais qui se rejoignent quand même et qui font partie de nos vies, finalement, de musiciens. Soit de se mettre au service, soit d'impulser. Donc non, la transition se fait assez bien, finalement. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord quand on a dit que c'est du réchauffé, parce que finalement, c'est complètement différent de ce qu'on a pu vivre avant. C'est une autre énergie, c'est une autre direction, c'est autre chose. Donc ouais. Non, c'est vraiment un spectacle nouveau.
Non, ce n'est pas réchauffé, mais c'est ce qu'on m'a dit, en fait. Par exemple, j'ai proposé à des copines de publier des choses et tout, et elles me disaient, comme c'est un peu du réchauffé, je ne suis pas d'accord avec ça non plus, mais on dit ça. C'est ce qui se dit. Malheureusement, ça dessert un peu le truc. Mmh. Alors que c'est vraiment une aventure qui continue et qui s'appelle la vie. Mmh.
C'est une sorte d'évolution de l'œuvre.
Complètement. Et après, c'est hors cadre de ce qui se fait. Ce qui peut se faire, c'est-à-dire, j'ai une idée, j'écris, je demande des aides et des partenariats, je les ai. Mmh. Ça dure à peu près. J'ai 11 mois de création en cirque, entre guillemets. Je sors, ça tourne, je fais des offs, etc. Et là, c'est vrai que ça pue du tout. C'est différent. Moi, j'espère quand même que ça aura une vie qu'on va pouvoir jouer. Là, c'est des sortes d'avant-premières. On demande une création lumière derrière, un partenariat avec le département, par exemple, et d'autres, pour finir l'exploiter après, évidemment. Le but, c'est de le jouer. Et après, on a travaillé avec d'autres gens avant. Il y a eu ça aussi. Et c'est aussi parce que je viens du cirque, donc je fais l'école du Lido. Ça joue sur le jeu, il y a de l'humour, mais c'est pas du tout la même direction quand même que ce que... Quand tu prends un solo, c'est beaucoup plus exigeant que quand t'es en groupe et que tu fais beaucoup de cirque, on va dire 80% de cirque, 20% d'humour, et t'es rigolote, ou on est rigolo, et à 45 ans aussi. Quand après, ça s'inverse, c'est 80% qui tiennent sur ton jeu, tes directions de jeu, ton propos, comment tu le joues. Ça passe vraiment derrière, les performances sont là, on va dire. On essaye aussi, je viens du corps, donc voilà. Et il y a aussi un numéro dedans, mais ça n'a rien à voir avec l'Arsène qui avait... je faisais corde volante, corde lisse à deux. Et là, il y a un numéro de pole, on va dire, qui pourrait s'appeler le numéro de cirque. Et c'est de la pole dance, donc ça rentre même pas dans le cadre du C, même si ça ressemble à du mât. Moi, j'utilise vraiment les codes de la pole dance, c'est ça qui m'a intéressé. Donc c'est pas non plus, je fais pas un numéro de mât chinois, quoi.
Le cirque évolue de toute façon.
En plus, oui, il était déjà et ça continue, oui, bien sûr. Mais c'est un peu différent pour ça.
Par rapport au spectacle, qui est Princesse Bernard? Est-ce une princesse qu'il faut sauver ou bien une princesse combative et revendicative?
Un peu tout en fait. Hein, mais non, je dirais d'abord, je revendique et ça c'est sûr. Après, puisque le clown il passe, j'ai l'impression... normalement, ce n'est pas de la psychologie, mais on voit nos failles. Il y a des jeux du triangle, c'est-à-dire je domine, je passe à victime, je passe à je me sauve, j'ai envie qu'on me sauve. Et c'est ça qui est rigolo, c'est l'humain. Et là, je ne m'en cache pas, on l'utilise. Voilà, là, j'essaye d'être parfaite, mais bon, je ne le suis pas. Au départ, dans la compagnie, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais on dirait Sarah Bernard, il faudrait que tu aies un peignoir et tout. Donc c'est vraiment le côté aussi, des gens me disaient que j'étais une princesse, alors que franchement, j'ai planté des pinces, quoi.
Et en quoi Princesse Bernard pourrait-elle être à la croisée entre Madonna et Maradona?
Cette histoire, c'est parce que Madonna, c'est comme un égrégore. Il y a la Vierge Marie, vous voyez, c'est un égrégore. Madonna, c'en est un aussi quelque part. Elle a réussi à créer ça. Et c'est un espèce de truc... en fait, moi, je fais aussi des stages de chamanisme, pour vous dire. Non, je le dis en riant parce que j'ai presque un peu honte alors que je trouve ça génial. Et dans un truc sur... J'ai fait un stage sur l'abondance autour du chamanisme et on va chercher son animal de l'abondance. Et après, on va chercher une figure un peu. Et c'est... Tu choisis pas ce qui arrive. C'est comme un peu en séance d'hypnose où tu laisses défiler, on va dire. Et c'est Madonna qui est arrivée. Et du coup, j'ai gardé ça. Et après, Maradona, c'est parce que c'est la main de Dieu et que c'est un truc que je dis, je travaille à l'âle de la machine. Je dis, là, j'ai fait quoi? Je suis la main de Dieu. Et c'est un peu se prendre pour quelque chose. C'est une sorte de... J'avais envie, parce qu'elle représente, du coup, dans mon stage de l'abondance, l'abondance et le succès que je vise par rapport aux échecs. Elle est un peu rigolote aussi, quoi. Elle a passé dans tous les styles. Et Maradona, ils sont un peu marrants aussi. C'est un peu de l'excès. Princesse, c'est excessif aussi. Sarah Bernard, je pense qu'elle devait l'être un peu aussi.
Ouais. C'est aussi le décalage entre la prétention et l'être.
Complètement, et c'est de la prétention. Et on joue de ça dans le spectacle, bien sûr. On prétend...
On prétend plein de choses, mais en fait, la réalité n'est pas toujours aussi glorieuse. Voilà.
Toujours pour Princesse Bernard, quelle importance ont Jean-Jacques Goldman, Céline Dion, La Reine des Neiges et George Sand?
George Sand, c'est parce que je suis berrichonne. Et George Sand, comme vous le savez, c'était pas un garçon. Et que moi-même, je suis pas un garçon. Et qu'effectivement, de par ma position, des fois, j'aurais aimé être un garçon parce qu'il me semblerait que ce serait plus simple. Voilà, ça, c'est ma vision. Je le traite avec, j'espère, un peu d'humour. Même si je manque un peu d'humour, des fois, avec ça. C'est vrai, hein, Doudou? Alors, il y a qui, Jean-Jacques Goldman? Bah, Jean-Jacques Goldman, c'est parce que j'ai écouté que ça dans mon enfance, quoi. Avec Elton John, avec que des bonnes références. Avec George Michael.
C'est la quête de l'individu au sein de la pop culture.
Non, mais après... et Jean-Jacques Goldman, pour dire, c'est parce que c'était vraiment fou. Ma mère était tellement fan, elle écoutait ça et elle pleurait. On voit pas souvent ses parents pleurer, je veux dire. Elle lâchait tout en voiture. Souvent, on lâche en voiture parce qu'on regarde la route, on n'est pas les yeux dans les yeux. Du coup, ça permet de libérer. Et donc, elle mettait tout le temps Jean-Jacques Goldman et elle se lâchait. Et moi, on était à côté avec ma sœur ou derrière et on la voyait faire « on va le voir !» Et c'était hyper à fond et on était impressionnés. Je disais « waouh !» Et du coup, ça m'a vachement marqué. Et quand je l'entends, ça me fait chialer. En fait, c'est une madeleine un peu ou un rappel. Et après, ces textes sont quand même... C'est pas mal quand même.
Ils sont engagés, oui.
C'est engagé, quoi. Il y a qui d'autre?
La Reine des Neiges.
Ah, La Reine des Neiges. La Reine des Neiges, au départ, c'était... vous l'avez vu. C'est parce que c'est quand même la seule héroïne de Disney qui part par elle-même, qui n'attend rien d'un homme. Et elle a une forme de violence en elle qui la dépasse. Et elle fait « bon, bah, je vous fais du mal, du coup je m'en vais ». Je me suis retrouvée un peu là-dedans. Et c'est pour ça qu'on a fait La Reine des Neiges au départ. Après, j'ai eu deux enfants depuis. Enfin, j'avais déjà Romy. Et là, on a enlevé La Reine des Neiges. Parce que Doudou, c'est vrai, il était sympa. Quand j'ai dit « on va faire La Reine des Neiges », il m'a dit « non ». Tu fais pas ça, tout mais pas ça. Parce que lui, vraiment, il a une autre culture que moi musicale. C'est pas Jean-Jacques Goldman, par exemple. C'est là où on s'équilibre bien. Non, et du coup, on l'a enlevé parce que j'avais envie d'un truc plus intemporel, même s'il paraît que les enfants écoutent encore ça. Mes deux filles sont déjà blasées. Et du coup, j'avais pas envie de...
Ça les touche encore, hein, les
enfants. Ouais. Mais c'était pour ça, c'est parce que cette héroïne-là, finalement, dans Disney, je la trouve. Je leur montre pas trop Disney à mes enfants. Ouais, c'est vrai, les pauvres, elles sont pas cultivées. On fait plein d'autres trucs, hein. On regarde d'autres, quand même, des choses. Mais par rapport à ça, parce que je m'interroge par rapport à l'image des contes, etc., des princesses, des héroïnes, et c'est vraiment un truc qui est chouette, je pense à... Je vais leur en parler, on va lire, mais à, du coup, questionner. J'ai écrit des livres autour du... Où tout est inversé, c'est les femmes. Du coup, on en discute. Elles sont un peu jeunes encore, mais celles qui ont 10 ans et demi, on peut commencer un petit peu. Et elles, par contre, elles ont vu La Reine des Neiges. Et elles me demandent, donc là, l'autre fois... Comme on est rentré, il y avait de la neige, on a été au ski, il y avait plein de neige. Et elles m'ont dit, est-ce que tu peux nous chanter La Reine des Neiges? Et j'aurais chanté, elles étaient trop contentes. Parce que maman, elle connaît la chanson. Et je peux faire les envolées, on a bien travaillé, hein, c'est vrai. Donc maintenant, ça sert plus pour ça, pour le privé.
C'est cette femme indépendante aussi, qui s'affranchit de tous les codes pour vivre sa vie. C'est
Et elle est victime un peu aussi d'elle.
Ouais,
il y a tout un travail à faire sur elle, elle s'isole. Enfin, c'est génial en fait, c'est un parcours initiatique, elle fait ça. Et du coup, bah, évidemment, comme princesse, c'est l'histoire d'un parcours. Qui suis-je? Comment je fais avec ça? Comment je me débrouille avec moi-même, les autres? Voilà, tout en cherchant l'harmonie, le contact avec les autres quand même, l'amour. Enfin, c'est les allers-retours, ça traite de tout ça.
Et Céline Dion?
Et Céline Dion, bah, c'est un peu lié à Jean-Jacques Goldman. Vous savez que si... Elle n'avait pas rencontré Jean-Jacques Goldman. Bon, elle est quand même déjà une star. Mais lui, il lui a dit... Il a fait un album qui l'a fait super connaître d'une autre manière. Il lui a dit, arrête de crier, arrête d'envoyer comme ça. Il lui a dit, tranquille, fais de la simplicité et tout. Il a amené ça à Céline Dion. Et je sais pas, le duo, je trouve... Et après, j'adore... Bon, on ne l'a pas fait, là. Peut-être dans une autre création. All by myself, c'est quand même un... J'aime bien en soirée l'envoyer comme ça. Et j'arrive à convaincre des gens. Par exemple, au cabaret, avec mes amis du cabaret de trop, l'autre fois, je leur ai balancé en fin de soirée et j'ai vu que tout le monde s'emballait, donc je me suis dit, ah ouais, quand même, Céline Dion, ça marche aussi. Et ça m'amuse.
Il n'a pas l'air trop d'accord. Il faut ralentir un peu sur Céline Dion, non?
Je suis plus partagé, moi. Comment dire? Non, cette image de femme star, moi, j'ai toujours un peu de mal avec la starification comme ça, à outrance.
Ah, mais c'est parce qu'elle le mérite, quand même.
Alors, moi, les mérites...
Il y a ça aussi.
C'est tout un parcours. Hein. Voilà. Je suis pas tout à
fait d'accord. On n'est pas pour complètement ça. Ouais, c'est vrai. Non, c'est un peu drôle. Voilà. Et c'est toujours... C'est comme Jean-Jacques, ça me...
Elle a cette image de femme très romancée, etc.
Ah bon,
c'est un récit. Bah, beaucoup. Ça, c'est tarification.
C'est vrai que depuis que René est mort, elle a un peu disparu des...
Après, elle est tombée malade, mais elle a fait un super comeback au
JO. Oui, c'est vrai, elle s'est filmée malade et tout, j'ai suivi. Les trucs, j'étais super renseignée sur Céline Dion, etc. Et là, bon, j'ai plus la place. Parce qu'à un moment, je parlais beaucoup d'elle dans le spectacle. Le metteur en scène m'a dit, mais tais-toi. Et du coup, non, je rigole.
Et bien, peut-être qu'à l'image de Céline Dion ou de la Reine des Neiges, Princesse Bernard est une femme à l'identité forte, qui partage la reconquête de l'Ouest, de son corps, qui le crie au monde, et qui cherche à faire exploser les croyances sociales. Pourquoi ça? Et où puise-t-elle son énergie?
Comment dire? Quand on se sent différent et que c'est compliqué d'exister à l'intérieur de ça, c'est vraiment ça qui est raconté un peu. Donc c'est faire la part belle, ce que je dis, aux différences qu'on a, et au lieu d'en avoir honte ou de les cacher ou d'essayer de les dissimuler pour ressembler à tout le monde, c'est l'endroit où il va tenter, mais avec difficulté, hein, de se libérer. Au moins un instant, à des recherches de qui suis-je, puisqu'elle a toujours cherché à ressembler à ce qu'il fallait être pour être aimée, c'est-à-dire ressembler à une sorte de modèle, soit sociétal, des parents, soit de ce qu'elle ressent qu'il faudrait qu'elle soit, et de se mettre une pression pour ça, et après, en grandissant, en vieillissant, de se dire, bah, en fait, ça ne va pas complètement à qui je suis, et du coup, avoir des dysfonctionnements, et de chercher à être libre à travers ça. Et c'est un peu, voilà, je pense, le chemin de chacun, hein, de toute façon. Mais c'est ça qui est raconté. Voilà, et après, j'ai l'impression que quand on arrive à être soi-même, pour de vrai, je veux dire, avec tous ces trucs un peu peut-être étranges, enfin qu'on se dit étranges, ben ça brille en soi-même, c'est beau. Les formes de sincérité avec soi-même, ben c'est déjà super beau. Et je pense qu'effectivement, les stars, c'est parce qu'elles ont fait un sacré chemin. Elles doivent être elles-mêmes. Elles ont peut-être compris des choses rapidement sur ça. C'est une question que je me pose. Ouais.
Comme tu le disais un peu précédemment, une princesse ou une femme mise à l'image pendant longtemps, c'était un fantasme de femme-objet, femme parfaite, ça peut l'être encore aujourd'hui. Pourquoi les femmes doivent-elles encore, en 2025, se battre pour faire changer les mentalités des hommes un peu masculins? Et pourquoi les droits des femmes sont encore fragiles? Et pourquoi les femmes sont-elles considérées comme délicates et vulnérables alors qu'elles font preuve de meilleure résilience que les hommes cisgenres?
Oui, j'entends ce que tu dis, c'est des choses qui me mettent en colère... un peu en ce moment, tous les matins en plus, c'est complètement fou, quoi. Je sais pas pourquoi, si, parce qu'on s'habitue, parce qu'on... C'est culturel, c'est dans l'éducation. C'est un petit peu des choses qu'on étudie. Et que, je vais parler de moi par rapport à mon âge et ma génération, du coup. Moi, j'ai toujours été en colère, assez vite, hein. Et aussi assez... intrépide dans mon corps ou dans les choses, sans filtre à dire aussi. Pas forcément être un petit machin fragile, etc. Par contre, j'avais envie, très vite, j'ai compris que c'était pas top. Donc je me suis un peu commencé à m'effacer. Sauf que la colère, elle reste. Mais c'est des histoires parce qu'on veut tous, je pense, homme ou femme, plaire. Et du coup, on se conforme à ce qu'on comprend qu'il faudrait dans une société ou dans une culture. Les référents qu'on a, c'est les parents. Et les choses changent tellement doucement. C'est pour ça que là, on en est encore là. C'est tellement doucement. Même ma petite fille qui a 6 ans, elle est... On a l'impression d'essayer de déconstruire. Et elle est dans ces stéréotypes-là. L'école est dans ces stéréotypes-là. C'est des stéréotypes, des croyances. Déjà, on s'en fait plein des croyances, et encore plus par rapport au genre. Et c'est en train de se... Là, je trouve que c'est maintenant que c'est en train, depuis MeToo, depuis dire « Ah, mais en fait, ça, je ne suis pas d'accord. Ça ne me convient pas d'arriver à dire. Ça ne me convient pas d'être entendu. » Et petit à petit, parce que de toute façon, ça, tout va changer. Tout est en train, j'espère. Donc je vais observer ça chez mes enfants aussi. Ouais, ils ont 10 et 6, de voir comment ça se... Et après, je pense que c'est des charges. Moi, je suis en colère encore contre des charges dont on ne se rend pas compte, parce qu'on n'arrive pas. Du coup, moi, j'ai dit, OK, je fais tout toute seule, mais du coup, après, je suis sous des charges de fou. Et là, je me rends compte que bah, je suis dans le truc. Je ne demande pas. Je ne demande pas d'aide, ou je ne demande pas comme il faut. Ou... Voilà, c'est un équipe qu'on a trouvé ensemble. Après, je pense qu'à force, ça va... Quoique, vu ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas encore gagné du tout, là. Mais bon...
Il faut garder espoir,
bien sûr. Et...
Quand on est une femme qui pratique les arts vivants, et notamment des pratiques physiques et artistiques, est-ce que le rapport au corps change par rapport à celui d'un homme cisgenre?
Notamment quand on a eu des enfants.
Alors là, moi, ça fait vraiment partie, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, du parcours. Et c'est comme moi, je l'ai vécu aussi. Il y a des femmes qui sont enceintes. J'ai continué à travailler, mais ça, j'étais tellement moins fatiguée. À 3-4 mois, j'ai arrêté. J'ai repris assez rapidement. J'allaitais. J'ai vraiment voulu allaiter parce que j'avais l'impression d'avoir raté. Mais ça rentre vraiment dans le discours du truc. Mon accouchement, parce que j'ai une césarienne. Donc j'étais en train de me dire, oui, ça va super loin. Mais à l'époque, elle a 10 ans. Et je me suis dit... je veux allaiter de toute façon parce qu'elle est montée naturellement. Et j'ai trouvé ça cool. J'étais fatiguée. Je ne pensais pas que ça allait me fatiguer comme ça. Je pensais que j'étais pleine d'énergie et j'étais. Mais ça m'a fatiguée. Ça a fait exploser la compagnie quand même parce que j'ai entendu des choses à l'époque. Comme, mais tu vas allaiter longtemps, là, tu es crevée, on ne peut plus... Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, c'est pour ça que ça a clashé. Et c'est une personne qui n'est pas spécialement... C'est des phrases que j'ai entendues qui ne le diraient plus aujourd'hui parce qu'ils se rendraient compte. C'est pas méchamment, en fait. C'est un manque de conscience. Et moi-même, un manque de conscience, parce que quand on m'a dit ça, je me suis dit, je l'ai pris en me disant, ah oui, c'est vrai, c'est pas cool, je ralentis tout le monde par mes choix personnels. C'est plus du tout le même discours aujourd'hui. Donc, il y a quand même une vraie évolution. Et ça, c'est génial. Parce que du coup, je me serais pas retrouvée comme ça. Je me suis dit, bon, bah ok, c'est moi, c'est vrai. Bon, j'ai quand même continué à allaiter parce que moi, on me dit pas quoi faire. J'aurais pu faire, bon, ok. Ça dépend. C'est terrible, en fait, c'est assez violent. Donc voilà, j'ai allaité 2 ans, chaque enfant. Et effectivement, au deuxième enfant, du coup, je me suis dit, bon, en fait, je vais prendre mon temps. Je vais pas me mettre un... Je vais prendre le temps de la maternité, d'être bien, je vais me mettre tranquille. Finalement, j'ai aussi travaillé sur... Mais je me le suis fait plus cool. Et là, j'ai un peu plus d'énergie, elles sont plus grandes. Je me sens un peu, puisque je suis séparée aussi... de les laisser un peu plus, etc. Mais ça, c'est moi, comme je suis maman. Après, c'est assez à chacun. J'accuserai pas les compagnons que j'ai eus, parce que c'est 2 pères différents, puisqu'ils sont très disponibles pour leurs enfants. C'est vraiment un choix aussi. Mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup changer, puisque du coup, ça a été un gros changement pour moi. Moi, j'étais que spectacle, spectacle, entraînement, spectacle. Et d'un coup, c'est un monde qui arrive, et c'est hyper beau. Du coup, t'as envie de te profiter de ce monde, enfin, moi. Et ça m'a ralenti. Oui, évidemment. C'est un choix, mais ça m'a ralenti. Et le corps, il se remet bien. Moi, j'ai trouvé, on va dire. J'ai pas trouvé que c'était compliqué, ça. C'est plus... toujours pareil, la charge, même si je suis aidée, tout ce que je prends comme charge. Qui fait que je suis plus... Enfin, je suis fatiguée.
Est-ce que le burlesque, l'humour, serait un moyen de sensibiliser le grand public?
J'ai capté le burlesque, ça fait longtemps. Ça m'a toujours fascinée, déjà. Et je trouve que tous les corps peuvent... sont beaux. C'est ça qui est magique. Sont valorisés comme tels. Et avec des noms, les flappies, il y a vraiment des noms. Et j'ai trouvé ça magique. Puisqu'on a tous un peu des complexes. Même si on fait du cirque et que, on est dans la taille moyenne, on va dire. On est traversé par ça parce qu'il y a des exigences. Il y a eu des trucs un peu... qui disparaissent, j'espère. Et je trouve ça magique. Et c'est une mise à nu. Du coup, il y a vraiment le côté... le clown, c'est une mise à nu mentale, enfin, psycho, de qui on est. Et si on va plus loin, montrer sa peau, son corps tel quel, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Il y a une évolution. Enfin, d'arriver à le faire, moi, ça a toujours été un truc que je trouve important personnellement et que je trouve beau à voir. J'adore voir n'importe quel corps. Ça me fascine, je trouve ça beau. Et en plus, c'est libérateur. Enfin, la pole dance, c'est vraiment... Au début, j'y allais pour rire, en fait. La première fois, je me suis dit, je vais faire de la pole dance dans mon spectacle. Et en fait, j'en ai fait, ça m'a apporté. C'est-à-dire qu'après, il y a vraiment des trucs très drôles, parce que pousser à l'extrême, c'est génial. Mais en vrai, c'est très libérateur, toutes les femmes qui en font. Et il y a toutes les tailles, tout. Et il y a de la pole qu'on peut faire en montant plus acrobatique. Là, il faut être un peu plus musclé, on va dire rentrer dans des trucs de musculation, de performance. Mais sinon, il y a tout un tas de trucs au sol avec marcher avec des talons qui sont déjà aussi une performance en soi et de sentir sensuel sans se juger. C'est-à-dire vraiment... il y a tout type aussi de manières de faire autour de la pole dance. Il y a old school, il y a plusieurs manières de trouver sa sensualité. Et c'est très chouette.
Ça revalorise.
Ouais, c'est vraiment... On a toutes vécu ça, d'assumer sans se poser de questions. Et au-delà de aussi, même rentrer dans les clichés, parce que finalement, des fois, c'est presque rire, puisqu'on est moulé dans ce moule d'être comme ci, d'être comme ça. Ok, je vais être Sharon Stone, Madonna et machin, et de pousser le truc et dire ouais, bah en fait c'est vrai, j'aime bien quoi aussi. On est fait de plein de palettes et d'accepter ça puisqu'on a été moulé et de le déconstruire aussi, enfin de voir ce que ça. En tout cas, c'est un voyage à travers ça, la Paul. Voilà, c'est une interrogation. J'ai pas de réponse par rapport à d'où je viens, etc. J'ai pas de moi-même de réponse puisque je suis moi-même dans un moule. Ça questionne, ça va super loin, ça va dans l'intime.
Mais il y a une forme de légèreté qui est...
Après, on essaye de questionner, de l'alléger, ouais, d'assumer, ouais. D'assumer tout.
Et c'est-à-dire... en ce sens-là, l'humour peut aider.
Ah bah, à fond. Là, c'est vraiment le trait. C'est pour ça qu'on a dit
ce clown. Ce qui permet de distancer un petit peu, justement, quelque chose de très profond. Et oui, je pense effectivement que ça peut aider beaucoup à se trouver, tout simplement.
On fait un traitement avec distance, ouais, de tout ce que je vous dis. De Céline Dion, du corps, de faire la chaudasse si on a envie ou pas. La petite fille, parce que cohabite en ce personnage, elle a 5 ans des fois, puis après elle en a 50, c'est une cougar qui veut tout manger. Enfin, je veux dire, et c'est cohabite, c'est des conflits et des essais. J'ai écouté Chopin, moi aussi, puisque Chopin, vous savez, était avec George Sand, et en même temps Jean-Jacques Goldman. Enfin, c'est des cohabitations de choses, de différences et de. C'est vrai.
C'est vrai, Chopin était avec.
C'est pas vrai ça?
Bah, si, avec Jean-Jacques Goldman?
Avec Jean-Jacques Goldman. Ah ouais, ouais, je crois qu'ils sont dans la même. Pas, non, avec George Sand, j'ai dit Jean-Jacques Goldman.
On est en enfer.
Non, avec George Sand.
On a compris, c'est le principal.
C'est excellent. Donc Chopin était avec Jean-Jacques Goldman et ils étaient ensemble. Et à l'époque, c'était pas facile. En plus, il y avait les maladies du poumon, là, vous savez.
Oui. Pour rester un petit peu dans le burlesque, dans l'absurde, on est dans un contexte qui est quand même très morose dans la société en ce moment.
Complètement.
Pourquoi c'est important aujourd'hui de continuer à s'amuser, continuer de rire, y compris pour revendiquer des droits à l'égalité, au respect, au droit d'exister. Et donc, l'art et la culture, est-ce que ce sont des remèdes au final?
J'espère. Je l'espère. Je pense vraiment que c'est... Bah, j'espère ouais, que l'art et la culture rendent empathique, c'est-à-dire... Déjà, ça peut évader... Moi, je sais que des fois, quand on va au cinéma, et ça peut rendre empathique, c'est-à-dire être touché par quelque chose qui, au départ, nous concerne pas, et de se sentir concerné. Oui, j'ai espoir de ça, bien sûr, à travers l'art, tout ce qui est artistique, bien sûr, à fond.
Ouais, alors moi, je pense pas que ce soit véritablement un remède.
Une conscience.
Ça permet en tout cas de supporter plus facilement ce qui se passe et de maintenir une forme de joie en soi. Qui est absolument indispensable à l'épanouissement dans le monde tel qu'on le connaît. Quoi. Et que je crois que plus que toute autre chose, c'est ça qu'il faut cultiver, la joie en nous, et la joie d'être ensemble, de se rassembler, etc. Et de justement pas se laisser attirer par toutes ces mauvaises choses qu'on nous apporte de droite et de gauche et qui ne nous appartiennent pas. Donc en ce sens-là, l'art peut être militant plus qu'un remède. Mais dire, regardez, oui. Une autre voie est possible.
Oui, c'est militant plus, complètement. Ouais. Décider de faire un spectacle, c'est déjà militant. Commencer à s'entraîner. Je m'entraîne avec des gens, du coup, ont 20 ans. Non, c'est super beau, parce que c'est militant en soi. Quelqu'un qui vient, qui se lève, qui vient s'entraîner, qui dit « Ah, j'ai écrit, j'envoie. » C'est déjà une forme de résistance sur des choses, de l'engagement. C'est de l'engagement. Et après, ben, on peut aller plus loin. Voilà. Et oui, la joie, en tout cas, le clown, l'art du clown, on va dire. L'humour, c'est vraiment une prise de distance par rapport à des choses. Ça peut, j'espère... On essaye par ce biais-là des choses profondes qui touchent véritablement, qui sont dramatiques, incurables, d'essayer d'y mettre de la légèreté, du recul, de prendre du recul et comment on peut...
Et pouvoir commencer à en rire.
Ouais. On voit bien dans nos vies quand on prend de... Comme ça fait du bien, de rire des choses.
Peut-on rire de tout avec tout le monde d'ailleurs?
Je vais parler personnellement parce que parler pour tout le monde c'est compliqué. En tout cas, je sais que quand je parlais de Céline Dion... Du cancer, à un moment donné, j'ai abordé le cancer. Et c'était vraiment dans un sketch. Enfin, un sketch, un déroulement. Les gens riaient, on va dire, depuis qu'il est mort, etc. Et là, j'imitais. Son mari fait respirer, se faisait rire tout le monde. Et il y a quelqu'un qui est venu à la fin de la représentation et qui m'a dit, mais c'est pas drôle, en fait, de rire du cancer. Du mari de Céline Dion.
Parce que toutes les familles sont touchées par le cancer.
Oui, moi-même, je sais que j'ai une phrase dans mon spectacle qui parle directement d'un membre de ma famille. Par rapport à ça. Donc évidemment que j'étais pas en train de vouloir faire mal avec ça, mais ça fait mal à quelqu'un, ce qui est absolument pas mon intention, donc je me suis sentie vraiment... voilà, donc je me suis dit, ah mince, pour elle, on peut pas rire de ça. Le reste de la salle, je pense, à rire de ça. Derrière, il y avait un truc en moi qui disait, oui, bah c'est bon, et un autre qui disait, bah, j'ai pas envie de blesser. Donc c'est ça qui l'a emporté. Après, ça questionne, parce que c'est vraiment l'histoire de... Même sur soi-même. Moi, des fois, on blague sur moi et j'ai toujours un moment où je fais « Ah non, mais c'est pas drôle !» Et puis après, j'arrive à faire « Ok ». C'est ça, c'est la même chose, en fait. fondamentalement, ouais, c'est important. Si on arrive tous à rire de tout, là, on sera gagnant-gagnant. Mais bon,
ouais, tout le monde n'est pas tout le temps au même
endroit. Des souffrances. Voilà, la maladie. Il y a des choses très graves.
Plus sensibles que d'autres, quand même.
Et après, Blanche Gardin, c'est exactement ça qu'elle se prend dans la. Ça se discute en ce moment. On dit toujours, ah oui, mais quand on. C'est compliqué, là. Donc, c'est une question compliquée.
Il n'y a pas de réponse.
Non. Moi, j'ai juste été confrontée comme ça. Et oui, tu dis, non, je ne veux pas faire du mal. Comme j'imagine Blanche Gardin a dit, non, mais je ne voulais pas du tout faire du mal. J'ai moi-même mal, et c'est pour ça que j'ai parlé de ça. Mince, j'ai raté. Enfin, j'ai raté mon coup, puisqu'effectivement, je dois faire rire, et là, c'est raté. Et c'est un peu ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, si au lieu de faire rire, puisque ma volonté était de ça, je fais du mal, on va changer de manière de faire. Enfin, c'est essayer de faire rire, mais peut-être, voilà.
L'humour est-il universel? Il ne va pas toucher tout le monde de la même manière.
Oui, voilà.
Il y a des gens que ça va faire rire et d'autres pas, selon les tensions, etc., qu'ils ont en eux. Certains, tu pourras leur dire ce que tu veux, s'ils sont dans une colère monstre, ça ne les fera pas rire.
C'est des échanges.
Plutôt, peut-on rire de tout avec tout le monde? À tous les moments, devrait-on dire.
Ouais.
De l'existence et de notre évolution et de notre état, notre état intérieur.
On voudrait juste terminer par une pensée au théâtre du Grand Rond, avec qui vous êtes en complicité.
Oui.
Avez-vous un mot pour parler de la situation du théâtre actuellement?
Tu vois, je suis vraiment peinée de ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas lâcher, il y a des actions qui sont collectives. Le truc, c'est le rassemblement, de ne pas se lâcher les uns les autres. Et moi je dirais de ne pas lâcher. Voilà, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher et se communiquer. Voilà, et c'est ce qui s'est fait. Donc il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés le plus possible. Être ensemble là-dessus, sur ces sujets-là, et les défendre. Il n'y a que ça qui... Pas que, mais... Il y a des conjonctures, enfin, après, et voilà. Mais le seul truc qu'on puisse faire, sur lequel nous, on puisse avoir des actions, c'est... Enfin, agissons sur quoi on peut agir, c'est-à-dire en parler, manifester pour ceux qui peuvent aller manifester, et après, se réinventer. Je ne sais pas ce qui va se passer avec tout ça. Avec ce qui est en train de se passer, on va dire, au niveau des coupes budgétaires, etc. Je ne sais pas du tout. Il y a des actions qui se font. Donc non, je dirais, je suis peinée et que merci, et je les remercie parce que c'est un super lieu. C'est un super, super lieu. On est bien. J'ai joué plusieurs fois avec différents trucs. Ce truc de reprendre Princesse, Eric m'a vraiment soutenue, Serge aussi. Et aussi Edouard qui est resté quand même. On reprend pas tout seul. C'est sympa. Je suis pas tous les jours sympa. Et pour le coup, ça existe grâce à plein de gens, en fait. Qui croient, qui envoient de l'énergie à un moment donné, qui disent « mais si, vas-y », qui ont écouté. Et là, c'est pareil, il faut faire pareil avec le Grand Rond, avec les choses qui sont opérées, qui ont besoin de force.
Oui, pas lâcher,
de pas lâcher.
Ça rejoint un peu toute cette interview, c'est-à-dire que quand on considère le spectacle vivant comme un art militant ou une manière de se dresser contre les morosités du monde, c'est où est-ce qu'on a envie de mettre notre focus. Donc là, le focus, si on suit les informations, c'est qu'il n'y a plus d'argent pour la culture, alors que c'est probablement ce qui nous permettra de s'épanouir d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Donc sinon, continuer à faire ce qu'on fait... Je vois pas trop ce qu'on peut faire de plus, mais on voit bien que les manifestations ne sont pas entendues, que les paroles qu'on cherche à donner ne sont pas entendues, que certains préfèrent orienter le focus ailleurs, la focale. Donc continuons, quoi. Battons-nous pour créer le monde qu'on a envie de vivre demain, qu'il soit désirable et pas ce qu'on essaye de nous vendre à grand coup de télévision, d'images et de caméras braquées toujours sur les mêmes angles.
Oui, c'est des points de vue aussi.
Ce sont des points de vue, voilà.
Tout à fait.
Eh bien, merci pour cette interview. Est-ce que vous avez un site ou des réseaux pour pouvoir vous retrouver, vous suivre?
Il y a un site qui est à jour quand même. Et si, c'est une Berneron, tire 220 vols. Les réseaux, franchement, j'ai commencé à poster un truc hier sur Instagram, quoi. Donc, j'ai... c'est vrai, quelle galère. C'est hyper compliqué. Vous vous rendez pas compte. Et donc oui, on peut quand même voir les dernières infos. J'ai annoncé que ça jouerait à la Grainerie le 4 et 5.
Nous, on est plutôt d'une génération où il faut venir nous voir, en vrai, plutôt que de passer par des réseaux ou quelque chose qui est finalement très peu représentatif de ce qu'on peut faire. Voilà. Et donner et partager.
Après Créatrice, on vous retrouve.
Alors, on va aller dans les Charentes. Après, on fait des J'attends des réponses pour des off. Normalement, on fait Aurillac. Et pas trop, parce que de toute façon, on va finir ce spectacle cet hiver, normalement, avec une créa lumière et du retravail, même s'il a un parcours particulier. C'est marrant parce que c'est comme une maison est déjà construite et on doit la refaire. C'est quand même particulier parce que des fois, on se dit « Ah, mais ça aurait été peut-être plus simple d'en faire une nouvelle ». Et voilà, en tout cas, on va finir cet hiver. Et donc, j'attends des nouvelles un peu des partenaires pour ça. Et après, comme il y a beaucoup moins de paroles que ce qu'il y avait avant, puisqu'il n'y en a pas trop, du coup, et on va pouvoir... Moi, j'aimerais bien l'exploiter à l'étranger aussi.
Ok. Ouais. C'est cool.
C'est la suite, ça.
Merci beaucoup, à vous deux.
Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle, proposé par la Grainerie et les associations Médias Communs et Ivasam Studio.
Un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web média.
Ils et elles couvrent la programmation de la Grainerie en réalisant des émissions et interviews diffusées sur une dizaine de radios partenaires.
Ce programme est placé sous licence libre Creative Commons, attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.
Retrouvez tous les podcasts sur radiocaravane.net.